quotidienne.
Et c'est l'heure de la rubrique Nuances du monde. Et aujourd'hui, dans l'équipe de profs, je demande de Jean-François. Bonjour. Et merci d'être venu nous voir. Je te laisse la parole pour cette rubrique.
Merci. Ben, le principe de cette chronique est de revenir sur une journée particulièrement marquante de notre histoire. En ce 20 septembre 2023, c'est donc assez naturellement que je me suis tourné vers le souvenir du 20 septembre 1792, jour de la victoire de l'armée révolutionnaire sur les forces coalisées prussiennes et autrichiennes à Valmy. Cette journée emblématique ne fut pourtant qu'une simple canonnade face à laquelle les armées prussiennes et autrichiennes prirent curieusement la fuite. Pourtant, ce 20 septembre 1792 reste un symbole de la victoire du peuple héroïque en armes. Devenu un mythe républicain, Valmy a longtemps nourri les imaginaires des patriotes du monde entier. En effet, Valmy, c'est l'Austerlitz de la République, proclamé le lendemain même de la bataille. Et le 22 septembre 1792 devient ainsi le premier jour de l'an 1. Depuis lors, rien n'est venu ternir le prestige de cette bataille. Ni écorner un mythe né le jour même sous la plume de Goethe qui écrivit « De ce lieu et de ce jour date une nouvelle ère dans l'histoire du monde ». Pour éclairer au mieux ce jour-là, il nous faut revenir légèrement en arrière. En effet, que d'événements se sont succédés depuis le printemps 1789 et les premiers émois révolutionnaires, jusqu'à ce que Louis XVI accepte de devenir un monarque constitutionnel et de sceller ainsi l'alliance entre le trône et la nation. Mais dans cette histoire, rien n'est simple. La fuite du roi et son arrestation à Varennes le 20 juin 1791 avaient sonné le glas de la monarchie constitutionnelle. C'est au cœur de cette tourmente que s'enclenche le mécanisme de la guerre entre la Révolution et l'Europe. Il ne s'agit pas de conquête lorsque la France déclare la guerre le 20 avril 1792 en son assemblée législative. En effet, cette guerre se veut une action préventive contre les rassemblements de nobles émigrés qui s'arment dans la région rhénane sous la direction du frère du roi, le comte de Provence, qu'on connaîtra sous le futur nom de Louis XVIII, et qui pousse les monarchies européennes à épouser la cause de la solidarité monarchique contre la France révolutionnaire. En France, l'hostilité aux tyrans despotiques et la colère contre les émigrés qui trahissent exaltent le sentiment national et accroissent la suspicion contre le roi, que les députés veulent désormais mettre à l'épreuve. Si Louis XVI a parti lié avec le complot immigré et la contre-révolution, il signera ainsi son arrêt de mort. S'il est sincèrement décidé à jouer les jeux de la monarchie constitutionnelle, ce sera la guerre. Une guerre dont certains attendent qu'elle permette l'émergence d'une armée dévouée à l'Assemblée et propre à contenir ou écraser tous les débordements présents ou à venir. La guerre, c'est donc la poursuite de la Révolution par d'autres moyens. Sur cet enjeu de la guerre extérieure, les passions se déchaînent. En décembre 1791, l'homme de la guerre est Brissot. Aux Jacobins, il met ainsi en échec Robespierre, adversaire d'un conflit armé dans lequel il craint que la Révolution ne s'engloutisse. Mais quelles que soient les raisons, chacun cède au bellicisme. Et le 20 avril 1792, les jeux sont faits. Mais qui sont ces hommes qui partent à l'assaut de l'Europe ? Pour y porter l'étendard de la liberté. L'immigration des cadres et l'intégration des volontaires dès 1791, puis en 1792, avaient transformé l'ancienne armée royale en un conglomérat de soldats désunis. En avril 1792, ces effectifs globaux sont de l'ordre de 300 000 hommes, dont un tiers de volontaires. La majorité d'entre eux sont jeunes, attirés par les primes et la certitude de manger à leur faim dans une France encore en proie à des crises de subsistance, ou bien tout simplement par patriotisme révolutionnaire. Cette armée souffre pourtant de nombreux handicaps. L'intendance et les transports ne suivent pas. L'instruction militaire des nouvelles recrues est rudimentaire. Les volontaires avancent sans ordre ni discipline. La troupe se méfie des officiers, pour la plupart âgés et liés à l'ancien régime. Les officiers, eux, se défient de la troupe, qui réclame des chefs patriotes et le droit de choisir ses officiers. Il n'est donc pas surprenant de voir les premières batailles en Belgique se transformer en défaites. Devant l'ennemi, les troupes cèdent à la panique et s'enfuient, puis se replient ou se terrent dans les villes frontières, tandis que les colonnes prussiennes et autrichiennes envahissent la France. Alors que la capitale s'enflamme et obtient le 10 août 1792 la déchéance du roi, l'armée, sans plan, divisée, inerte, assiste sans résister à la subversion du territoire national par l'imposante armée prussienne du duc de Brunswick, qui entre en Lorraine, bloque Thionville, fait capituler Longueville le 23 août et Verdun le 2 septembre, dégageant ainsi la route de Paris, s'infiltrant dans les collines de l'Argonne, jetant à nouveau la panique dans les rangs français. Dumouriez, seul commandant des troupes depuis le 10 août, est à Sedan le 28. Il ramène des troupes sur l'Argonne, attend Kellermann, se fait déborder par les Autrichiens qui débouchent en Champagne. Au lieu de reculer sur Châlons pour protéger Paris, il préfère remonter le cours de l'Aisne et s'installer près de Saint-Menehould, sur les hauteurs de Valmy. Et en ce matin du 20 septembre 1792, le jour se lève à peine. Le brouillard ferme encore l'horizon. Il pleut. La terre colle aux roues des canons et aux chaussures des hommes. Il est 7 heures. Pendant plus de 12 heures, deux armées de 90 000 hommes en tout, l'arme au pied, immobile, ou manœuvrant pour se positionner ici ou là, vont se regarder sans combattre, en utilisant seulement le canon, alors que la pluie de boulets avait cessé et que l'orage déversait à nouveau des trompes d'eau sur les bivouacs des deux armées. On s'attendait à ce que la simple canonnade se transforme bientôt en véritable bataille. Il n'en fut rien. En effet, cette canonnade de Valmy laisse sur le terrain seulement entre guillemets, 184 Prussiens et 300 Français morts ou blessés. Pourtant, le duc de Brunswick, nullement défié militairement, ne cherche pas à reprendre les hostilités et ordonne au contraire, en accord avec son roi, le repli immédiat, la retraite de son armée, pourtant encore solide. Alors, pourquoi ? Tout simplement parce qu'aucune des monarchies d'Europe n'avait intérêt à une rapide défaite française. Elles ne se sentent pas menacées à ce moment-là par les nouveaux principes qui ont cours à Paris. Rien ne pousse encore les monarchies continentales à étouffer la Révolution française pour assurer leur tranquillité. L'intérêt des puissances européennes est donc maintenant que la France s'enlise dans sa révolution, que ce pays qui est encore au XVIIIe siècle la plus grande puissance européenne se déchire le plus longtemps possible et soit mise à l'écart des grandes affaires de l'Europe et du monde. Pourtant, et ça il n'avait pas vu venir, Valmy va marquer un tournant. Cette fois-ci, pas de débandade au sein de l'armée révolutionnaire. Et déjà apparaît le mythe de la victoire et la force d'une idée, celle de la démocratie en armes, de l'invincibilité d'un peuple en état de révolution. Le mythe de Valmy démoralise la noblesse, enthousiasme la population, conforte l'assemblée, affermit la détermination des troupes. Portée par lui, la France sort de son territoire, mène des guerres de libération ou de conquête, retrouve ses frontières naturelles, triomphe avec les soldats de l'an II de la première coalition et se lance à l'assaut de l'Europe. L'armée du peuple restera, en France et ailleurs, au XIXe comme au XXe siècle, le symbole de l'union entre l'armée et la nation, le gage de l'invincibilité d'un peuple qui se bat pour la liberté, crie « Vive la nation » et chante la Marseillaise, et part ainsi à l'assaut en masse profonde. Ainsi, de Valmy, tout procède.
Mais magnifique, merci beaucoup Jean-François.
De rien.
À très bientôt.
À bientôt.
On se retrouve notamment dans l'émission Poker Menteur très très vite, je crois.
Exactement.
Allez.
Dès demain.
Calade, ma radio.
La Méridienne.